Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je souhaite vous remercier pour votre document qui a structuré nos débats et aussi pour la qualité des experts qui ont été choisis pour faire ces présentations. Comme il s'agit d'une séance interactive, je souhaite être interactif aussi et ne pas se référer à aucun document. Je souhaite aussi remercier tous les États qui ont fait des documents de travail, pas uniquement lors de ces réunions, mais également lors des réunions de 2014, 2015 et 2016. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été consignées dans ces documents de travail. Monsieur le Président, je souhaite faire des petits commentaires concernant certaines idées véhiculées dans les documents de travail. Je souhaite commencer par une idée qui a été consignée dans un document de travail présenté lors de cette réunion et qui concerne l'inexistence de technologies concernant les salas. Ça a été consigné dans un document que c'est une affirmation qu'à partir du moment où cette technologie qui concerne les salas n'existe pas, il y avait toute une analyse et de grandes recommandations. Je suppose que cette affirmation capitale a été la base d'une analyse et d'ensemble de propositions. Alors que cette affirmation, on trouve au moins un expert qui a fait une présentation en 2014 et qui a affirmé que le système d'armes, que les salas eux-mêmes existent. Il a affirmé qu'il y a des samples, qu'il y a des exemples. Et là, je cite cet expert, c'est l'expert Monsieur Paul Char du Centre for New American Security, qui a affirmé non pas l'existence de cette technologie, mais ces systèmes eux-mêmes. Donc je crois bien qu'on ne parle pas de l'existence de cette technologie. Cette technologie, je pense qu'il y a des prémices de son existence, mais ces systèmes eux-mêmes, il y a des affirmations qui disent que ça existe. Donc c'est une affirmation qu'il faut prendre avec précaution, et c'est une affirmation qui a conduit à toute une analyse, et qui a conduit à la formulation de propositions. Le deuxième point concerne cette notion de illégalité percée des armes. Je crois que le droit humanitaire international, ce n'est pas un droit statique. C'est les États qui définissent à travers ces traités et ces protocoles ce qui est illégal percé ou non. Et l'exemple des armes du protocole 4 est très pertinent dans le cas de l'espèce, car avant que les États n'adopte ce protocole additionnel, ces lasers aveuglants, je dis bien ces blending lasers, n'étaient pas illégaux percés. Mais après l'adoption de ce protocole, ils l'ont devenu. Donc même cette notion illégalité percée, c'est une notion évolutive, et c'est les États eux-mêmes qui décident de ce qui est illégal percé, ce qui n'est pas illégal percé. Le troisième point, ça concerne la similarité entre les armes, les salas, et les lasers aveuglants. Je crois que la similarité ne concerne pas le côté opérationnel de ces armes, mais ça concerne les fondements d'interdiction et de régulation de ce système. Et je crois qu'il y a trois points importants qui peuvent être relevés. Cette similarité concerne la possibilité d'une interdiction préemptive, car il y a certaines délégations disent que du moment où ces salas n'existent pas, il n'est pas important de les interdire. Alors on dit qu'il y a un cas concret, par le passé, les lasers aveuglants n'existaient pas, mais ça n'a pas empêché de les interdire. C'est le premier point de similarité pour lequel À chaque fois, nous réitérons cet exemple de blending laser. Le deuxième point de similarité, ça concerne le développement technologique. L'interdiction des blending lasers n'a pas empêché l'évolution de la technologie des lasers dans les autres domaines. C'est un point très important de similarité. Le troisième point de similarité, ça concerne l'applicabilité du principe de l'humanité et de la conscience publique. Je crois qu'au moment de l'adoption de ce protocole additionnel, il y avait en quelque sorte un débat très, très pertinent concernant l'applicabilité du principe de l'humanité et de la conscience publique que nous considérons toujours valable et applicable pour le cas de l'espèce des salas. Je souhaite revenir à la question des autres propositions concernant la déclaration politique, concernant les mesures volontaires de transparence et le comité aussi scientifique. Je crois qu'en l'absence d'un ancrage juridique sous la coupe de la CCAC, on ne pourra pas envisager de telles mesures. Car la CCAC, c'est une convention parapluie. Elle est flexible et elle vise l'inclusion ou l'intégration de protocoles qui interdisent ou qui réglementent certains types d'armes. On ne peut pas envisager d'inclure des mécanismes spécifiques dans un ancrage global de la Convention. Nous souhaitons qu'il y ait un ancrage juridique par le biais d'un instrument juridique contraignant, un protocole additionnel, et sous la coupe de ce protocole, on pourra négocier toutes sortes de mesures envisageables. Le troisième et la quatrième remarque, Monsieur le Président, on parlait de définition, on parlait de beaucoup de choses. Je crois poser une grande préoccupation. Je souhaite savoir quel est l'objectif de toute cette démarche-là. Si on arrive à définir un objectif, un goal, pour cette démarche, on pourra avancer mieux dans nos travaux. Pas uniquement cette année, mais peut-être l'année prochaine. Merci beaucoup, monsieur.